Bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous.
De nombreux agriculteurs ont manifesté hier dans toute la France pour exprimer leur ras-le-bol de ce que l'on appelle l'agribashing et demander au président de la République de les aider à faire face aux difficultés considérables auxquelles ils sont confrontés. Est-ce que, en tant qu'écologiste, vous vous sentez une responsabilité dans cette forme de défiance qui s'exprime depuis quelques années maintenant à l'égard des agriculteurs ?
Non, moi je me sens... Je veux être aux côtés des agriculteurs pour les accompagner dans cette transition agricole et alimentaire, parce qu'effectivement, il y a de la demande croissante des consommateurs pour plus de proximité, plus de qualité, plus de respect de l'environnement. Et je pense que l'écologie doit être une solution aussi pour les agriculteurs. Il faut qu'on arrête d'opposer les uns aux autres. Et moi, je crois que la puissance publique a une responsabilité forte aujourd'hui. Il faut beaucoup plus accompagner qu'aujourd'hui les agriculteurs dans cette transition. Bien sûr, il y a un mouvement. Il y a un certain nombre d'agriculteurs, par exemple, qui se convertissent en nombre de plus en plus important à l'agriculture biologique. Il y a d'autres modèles aussi qui sont qui sont favorables à l'environnement et à l'ensemble des aspects positifs.
L'agriculture raisonnée, voilà. Par exemple.
Et donc, Il faut qu'on accompagne beaucoup plus qu'aujourd'hui les agriculteurs dans cette transition et s'attaquer aussi au vrai problème qui est comment les agriculteurs peuvent mieux vivre de leur production. C'était ce qu'on voulait faire avec la loi agriculture et alimentation, mais il va falloir persévérer pour que enfin les agriculteurs voient concrètement que leurs revenus augmentent.
Alors précisément, cette loi qui avait été annoncée il y a un petit peu plus d'un an et qui avait suscité beaucoup d'espoir à l'époque, y compris au sein des organisations syndicales d'agriculteurs, elle est très loin de donner les résultats escomptés. Le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, Didier Guillaume, le reconnaît lui-même. Qui est responsable de cet échec ? Qui n'a pas fait sa part de l'effort ?
D'abord, effectivement, pour l'instant, les résultats sont pas à la hauteur, mais il faut surtout pas baisser les bras. Ce problème du juste prix, des justes prix payés aux agriculteurs, ça vient de loin. Il faut continuer. Il y a un certain nombre de dispositifs dans la loi qui n'ont pas encore marché pour l'instant.
L'un des points principaux de cette loi, c'était de partir du coût de production pour fixer les prix.
Voilà, exactement. Et pour l'instant, ça ne marche pas, notamment parce que la grande distribution ne joue pas le jeu. Et effectivement, il va falloir lancer un certain nombre de contentieux avec eux, leur mettre la pression plus qu'aujourd'hui pour effectivement, enfin, la construction des prix soit inversée et qu'on reparte du juste prix payé à l'agriculteur. C'était la première année de la mise en application de la loi agriculture et alimentation. Donc, c'était vraiment une année de démarrage. Par exemple, sur les marques de distributeurs, il n'y a pas eu le travail de négociation nécessaire. Mais donc, surtout, ne baissons pas les bras. Il faut absolument s'appuyer sur cette loi dont on savait qu'elle ne réglerait pas tout avec un coup de baguette magique. Tiens. Mais il faut persévérer et qu'enfin, on mobilise tout le monde. Les agriculteurs aussi doivent mieux s'organiser dans des organisations de producteurs pour mieux peser dans la relation contractuelle avec la grande distribution.
Le président de la République était à Mayotte hier. Il a évoqué, évidemment, comme on s'y attendait, la question de l'immigration en plaidant pour une très grande fermeté. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était plus facile pour Emmanuel Macron de parler d'immigration à Mayotte qu'en métropole ?
En tout cas, je crois que le cas du département de Mayotte, il est très, très spécifique et qui ne doit pas servir d'illustration pour la politique sur l'immigration.
Vous avez l'impression que c'est ce qu'a tenté de faire...
Non, mais... Mayotte, c'est quoi ? C'est le département, peut-être en Europe, le plus pauvre. On a plus de 80% de la population à Mayotte qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a là-bas effectivement une situation très difficile, un développement économique qu'il va falloir lancer, réduire les inégalités, favoriser plus d'accès à l'éducation, etc. On est vraiment sur des enjeux de développement très forts. Et là-bas, on a cette immigration illégale en provenance du Comores, mais c'est un cas très particulier. Et moi, je dis aux uns et aux autres, faisant attention à ne pas illustrer le problème de l'immigration à partir du cas de Mayotte, qui est quand même un cas très spécifique, et sans doute le département de France où effectivement il y a le plus en pourcentage et en nombre d'immigration illégale.
D'un mot, avant d'évoquer le projet de loi de finances, il est question, enfin certains, notamment le sénateur Bruno Retailleau, voudraient faire interdire d'éventuelles listes communautaires aux élections. Est-ce que c'est une initiative que vous soutiendriez ou est-ce qu'il faut accepter l'idée qu'il puisse y avoir des listes communautaires lors de scrutins nationaux ou locaux en France ?
Je pense que ça pose tout un tas de questions. Comment on définit une liste communautaire, etc. Donc c'est pas du tout aussi simple que ça. Et je crois que dans la bouche de M. Retailleau, comme dans la bouche des représentants du Rassemblement national, il s'agit surtout, encore une fois, d'instrumentaliser et d'opposer sur ces questions-là. Donc moi, je suis évidemment très très réservé sur cette idée-là, mais surtout, on voit bien avec les polémiques de ces derniers jours, sur le voile, sur tout ça, il y a sur tous ces sujets-là la volonté d'instrumentaliser, la volonté d'agiter la peur de l'autre, etc. C'est le Rassemblement National et une partie des leaders d'une droite un peu extrême, ou en tout cas qui d'une droite très dure, comme M. Retailleau, voilà, instrumentalise à dessein toutes ces questions de communautarisme.
Le projet de loi de finances, donc projet de loi de finances 2020, est en discussion à l'Assemblée nationale. On se souvient que vous aviez quitté le groupe En Marche parce que vous estimiez que la transition écologique n'était pas au rendez-vous. Et là, une fois de plus, en matière de fiscalité environnementale, vous estimez que le compte n'y est pas.
Oui, disons qu'il y a des progrès d'un projet de loi de finances à l'autre, mais moi, la réalité des faits m'obsède. Et effectivement, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on est au bon rythme pour répondre aux enjeux climatiques, écologiques, de lutte contre la perte de biodiversité, de ce que nous disent la communauté scientifique. Et là, il y a un écart qui reste très important, qui est d'ailleurs inscrit tel quel dans certains documents d'accompagnement du gouvernement sur le projet de loi de finances. Il manque, par exemple, aujourd'hui en investissement, plus de 15 milliards d'euros par an d'investissement public et privé pour réussir cette transition, pour être au bon rythme, dont la moitié d'investissement public. Donc moi, ce que j'attendais de ce projet de loi de finances, c'était la relance de ces investissements publics massifs dans la transition pour accompagner les agriculteurs, on en a parlé il y a quelques minutes, pour massifier les alternatives à la voiture, pour la rénovation énergétique. Donc on a un certain nombre de mesures, mais qui me paraissent un peu, pas assez ambitieuses par rapport aux enjeux. Et moi, j'aimerais bien qu'on voit enfin l'écologie en grand, cette transition écologique en grand. Ça passe, à mon avis, par la relance d'un grand plan d'investissement.
Dans le livre que vous venez de publier, qui s'appelle « Je ne marche plus » aux éditions de l'Archipel, vous racontez une rencontre qui date d'il y a un petit peu plus d'un an, c'était en septembre 2018, avec le Premier ministre. Vous lui présentez les mesures que vous souhaitez voir mises en œuvre pour compenser l'envolée des prix du carburant. Oui, et il vous regarde et il vous répond « Ce n'est pas ma politique ». Et il ajoute, plus le prix à la pompe sera élevé, plus votre transition sera rapide. À ce moment-là, vous dites le divorce était consommé. Au fond, donc, pour le Premier ministre, il y a votre écologie et sa politique.
Non, mais à l'époque, très clairement, on était dans les semaines et les mois qui précédaient la crise des Gilets jaunes. Et on avait été un certain nombre de parlementaires de la majorité à alerter là-dessus et à faire des propositions très concrètes sur l'accompagnement des citoyens face à l'envolée du prix du diesel, du prix à la pompe. Et effectivement, nous, ce que portait aussi Nicolas Hulot, c'était l'accompagnement dans cette transition. Une transition ambitieuse, mais effectivement, où chaque citoyen, et notamment les classes moyennes, les citoyens les moins aisés, étaient accompagnés. Et c'est ça, sans doute, la différence de politique qu'on a eue avec le Premier ministre. Mais il s'agit de choix politiques. Hein. Nous aurions souhaité que cette transition, elle soit beaucoup plus accompagnés. Alors bien sûr, après, je le raconte d'ailleurs dans le livre, il y a eu des décisions, mais sans doute un peu trop tardives, du gouvernement, d'enfin accompagner cette transition, l'augmentation du chèque énergie, des primes pour la conversion du parc automobile, etc. Mais tout ça a été un peu trop tardif. Et effectivement, si on pense l'accompagnement des acteurs que quand il y a les problèmes qui arrivent, ça ne marche pas. Nous, on était pour mieux accompagner les citoyens dans cette transition.
Merci Mathieu Orphelin. Bonne journée.